Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le Libre Journal du Cinéma, votre émission mensuelle consacrée au 7e art. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer l'un des maîtres du cinéma, l'un des plus grands conteurs hollywoodiens, un artisan du rêve comme nul autre pareil, j'ai nommé Steven Spielberg. Alors, consacrer 1h30 d'émission à un réalisateur qui en est à son 37e long métrage, la tâche paraît compliquée, voire totalement illusoire. Nous allons donc aborder la filmographie de Steven Spielberg par le prisme de la science-fiction à l'occasion de la sortie, le 10 juin dernier, de son dernier long métrage, Disclosure Day, le jour de la révélation, voilà, traduit littéralement. Comme vous pouvez le constater, le moment est parfaitement choisi pour parler des films de science-fiction de Steven Spielberg, genre dans lequel ce réalisateur a signé quelques-unes de ses plus grandes réussites. Alors, 7 films sont au programme de notre séance, 7 films qui jalonnent plus de 50 ans de carrière. Et pour m'accompagner, je reçois donc Marc Aubrégon. Marc Aubrégon, bonjour.
Bonjour Philippe Henry.
Alors, vous êtes écrivain, journaliste, critique cinéma à l'incorrect. Vous avez publié entre autres Mort au peuple, L'Orbe, Omégaton, tome 1 et 2 aux éditions du Verbe Haut, Le Sucre chez La Mouette de Minerve. Puis récemment, vous avez participé à un ouvrage collectif consacré à Maurice Dantec.
Tout à fait.
Alors, pour plonger directement dans le vif du sujet, nous allons en fait aborder d'abord la sortie très récente, donc il y a à peine un mois, de Disclosure Day, on va voir un peu ce qu'on en a pensé, comment il s'inscrit un peu dans la filmographie de Steven Spielberg et de son rapport aux extraterrestres, qui est une de ses grandes thématiques. Et puis nous referons un peu le chemin inverse, nous repartirons donc de Rencontre du Troisième Type, E.T., donc Rencontre du Troisième Type en 1977, E.T. en 1982, AI, Intelligence Artificielle en 2001, Minority Report en 2002, La Guerre des Mondes en 2005 et Ready Player One en 2018. Voilà donc un peu le programme. Et donc pour commencer cette émission consacrée à Steven Spielberg, nous allons écouter un extrait de la bande-annonce de Disclosure Day.
We're interrupting our coverage. There has been a threat to publicly release government material long shrouded in secrecy.
Are they people?
No.
Do you think there could be others?
People have a right to know the truth.
What are you gonna do?
Full disclosure to the whole world, all at once.
If you do this, there's no one doing it.
There will be no other day like tomorrow.
Alors, nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Daniel Kellner est un expert en cybersécurité au sein d'une agence et il dérobe plusieurs archives classées secrètes pour remontant à l'incident de Roswell. Et donc, à ses trousses, Noah Scanlon, qui est le directeur de Wardex, qui est joué par Colin Firth, et qui veut faire en sorte que cette vérité ne doit pas éclater. Et puis en parallèle, nous avons Margaret Fairchild, qui est une présentatrice météo, qui est jouée par Emily Blunt, et qui, tout bascule lorsqu'elle revoit un cardinal rouge, donc un petit oiseau dans son appartement, et elle commence à se mettre à parler plusieurs langues. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, hein, je vous laisse le découvrir. C'est toujours un spectacle assez étourdissant, mais Marc Aubrégon, ce film a reçu, de la part de la critique, de la part des spectateurs, un accueil assez mitigé, dirons-nous.
Tout à fait, en effet, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vu beaucoup de grands critiques spielbergiens, notamment les anciens de Mad Movies comme Julien Dupuis ou Stéphane Moïsakis, qui se sont montrés assez sceptiques par rapport à ce film, voire qu'ils l'ont ouvertement détesté. Et j'étais très surpris parce que finalement, pour moi, c'est un film qui reste spielbergien dans l'âme, qui montre toujours une virtuosité incroyable dans la mise en scène, mais qui surtout ferme effectivement un chapitre entamé avec Rencontre du Troisième Type, puis E.T. Donc, c'est-à-dire pour moi qui fait une sorte de trilogie vraiment sur son rapport aux aliens et qui le ferme de façon, j'avoue, très singulière, on va y revenir, mais qui, en tout cas pour moi, d'une façon que personne n'attendait vraiment, ce qui sans doute a été la raison de cette déception relative de certains critiques, mais pour moi c'était très, très osé de sa part. Et j'en veux pour preuve, vous savez, le premier plan du film, souvent, ces premiers plans sont très programmatiques.
Grande force de Spielberg, c'est dès l'introduction, vous montrer un peu toutes les thématiques qui découlent de...
Voilà. Et d'ailleurs, souvent, ces premiers grands films commencent par un Fiat Lux, c'est-à-dire notamment Rencontre commence vraiment par un écran noir. voir. Puis il y a ce fameux Do dièse de John Williams qui apparaît, et là tout à coup on est dans le désert de Gobi, donc il y a toujours ce côté un peu genèse des films de Spielberg. Et là en fait il commence par un premier plan tout à fait trivial, ça se passe dans un match de catch.
Oui,
Et le spectateur est littéralement mis à terre par un coup de pied d'un catcheur. Et en fait pour moi ce plan qui peut paraître gratuit en fait annonce directement qu'on sera dans un film très terrien. Et effectivement pour un film sur les aliens, c'est un film qui ne comporte quasiment aucun plan de ciel en fait. Or Spielberg est connu pour ses plans de ciel, pour ses plans célestes, pour son rapport à une verticalité, pour son rapport à ce qu'on appelle parfois le lumineux, vous savez, avec un N, qui est un vieux mot latin qui signifie en gros la terreur du divin. Et là, effectivement, il n'y a aucun plan de ciel, il n'y a aucun plan d'apparition, si ce n'est, on y reviendra dans des images d'archives. Et je pense que c'est voulu, car c'est un film finalement qui montre bien à quel point la civilisation dorénavant est fermée à l'idée des aliens, si ce n'est finalement à travers les écrans et à travers les réseaux. Donc pour moi, c'est un plan programmatique qui nous annonce qu'on va parler des aliens, mais de façon presque triviale et de façon humaine, trop humaine, si je puis dire.
Presque désenchantée, dirons-nous.
Alors oui, alors justement, tout le sujet du film sera de réenchanter malgré tout, parce qu'on reste chez Spielberg, donc Spielberg c'est quand même le réenchanteur, donc pour moi il y parvient, mais c'est vrai qu'au début on est finalement dans un film très thriller, une course-poursuite de 2 heures que certains trouvent haletante, d'autres non, moi j'étais pris directement dans le film, mais voilà, on revient à un film finalement, je trouve ouvertement trivial, en tout cas dans sa première partie, me semble-t-il.
Mais alors c'est intéressant parce que moi, pour ma part, j'ai été un peu plus déçu, on va dire, de ce film de Spielberg, où justement j'ai trouvé que là. Alors, je tiens juste à petit aparté à prévenir nos chers auditeurs. Dans les films que nous allons voir, nous allons ouvertement parler de scènes capitales dans les films, de dévoiler des dessous d'intrigue. Donc, je vous invite, si vraiment vous n'avez pas vu ces films, à les voir. Ce sont des grands classiques. Et après, vous pourrez écouter avec grand plaisir l'émission. Mais voilà, n'allez pas je veux pas être responsable d'un divulgachage. Voilà, allez voir les films. Et puis après, parce que nous allons vraiment aller un peu dans les dessous de l'intrigue. Et donc, oui, ce film, j'ai trouvé que moi, il mettait un peu de temps à se mettre en place. Effectivement, on a ces scènes de poursuite qui, bon, finalement, j'ai trouvé, a été assez minorées. Moi, ce qui m'a un petit peu, alors il y a plusieurs choses j'ai pris quelques notes, mais qui m'ont un peu laissé, comment dire, un peu sur le bas côté. Alors c'est tout d'abord, c'est la photo de son directeur de photo, la photographie, qui est Janusz Kaminski, qui est, je crois,
depuis Schindler.
La liste de Schindler, donc en 93. Et c'est le directeur avec ces espèces de lens flare, un peu, qui rappelle malheureusement un certain J.J. Abrams.
Oui. S'inspirait de Spielberg lui-même à la base.
Qui s'inspirait de Spielberg et qui, moi, m'a un peu sorti du film, cette espèce de lumière un peu bleutée. Voilà, donc ça, c'est des choses de mise en scène. Qu'avez-vous pensé, par exemple, de la performance d'un Colin Firth dans ce film, justement ?
Alors justement,
qui joue le rôle du grand méchant et qu'on voit. Alors ça aussi, j'étais un peu déçu, si on le voit dès les premières scènes.
Vous mettez le doigt sur, pour moi, une des grandes faiblesses du film, qui est Colin Firth, qui est un acteur qui ne m'a jamais vraiment convaincu. Et je trouve qu'effectivement, le méchant qu'il incarne est tout à fait décevant. Effectivement, pour moi, c'est une des grandes faiblesses du film, c'est le casting de Colin Firth, que je trouve assez fade. Alors après, ce qui m'a amusé, c'est que je trouve que son style ressemble beaucoup à celui de George Lucas dans le film. Il a un peu la même coiffure, un peu la même barbe. Je me suis demandé si c'était pas un peu
une sorte de
référence. à son ami ennemi de toujours, et voilà, donc j'y vois pour moi une sorte de petite boutade, c'est ce look un peu à la George Lucas, mais c'est vrai que je trouve que pour un grand méchant, il est pas assez caractérisé et il est pas assez porté par Colin Firth. Ça, j'avoue, c'est une faiblesse du film.
Mais après, alors justement, pardon, excuse-moi, pour rebondir sur ce que vous avez dit en tout à l'heure, pour rebondir dessus, Spielberg est toujours, en fait, Spielberg est un enfant qui fait de la quête de l'au-delà extraterrestre une sorte de retour au paradis originel. Et on peut se poser la question, c'est est-ce que, justement, il a encore foi en l'humanité. Et c'est une question que moi, en tout cas, qui m'a, dans le film, je me suis posé, c'est que quand on voit justement, en fait, et ça j'invite les auditeurs à le faire, mm-hmm. c'est de regarder Rencontre du troisième type et de regarder Disclosure Day. Les deux films se répondent, je trouve c'est extrêmement intéressant, c'est que les deux films se répondent vraiment. Mm-hmm. Et donc, et cette espèce de foi naïve qu'on va aborder justement dans Rencontre du troisième mm-hmm. type, cette espèce de côté, on va pouvoir dialoguer ensemble, parce que c'est un film sur la communication mm-hmm. aussi. Là, on le voit notamment sur cette séquence de fin que je trouve glaçante, c'est que le monde apprend la vérité, mais à travers l'écran.
Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, ce qui différencie pour moi ces deux films, c'est 40 ans d'histoire, et c'est 40 ans d'histoire technologique, et donc 40 ans, et c'est la façon dont les écrans, finalement, se sont interposés entre le monde et la vérité. Et c'est vrai que pour moi, vous savez, on dit souvent que les grands cinéastes passent un peu de l'autre côté. C'était Paco Mitchellman qui parlait de Lynch en disant que Lynch, dans son œuvre, était passé dans la Black Lodge lui-même. Et je pense que Spielberg est aussi passé dans la Black Lodge, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment dans son œuvre qui, pour moi, a correspondu grosso modo au 11 septembre 2001. Où tout à coup, effectivement, il est devenu beaucoup plus misanthrope qu'avant, en fait. Mmh. Mais de toute façon, je pense que pour fin de parenthèse, Spielberg a un peu cette image qui lui colle à la peau d'un réalisateur un peu enfantin, un peu niais. Pour moi, ça n'a jamais été le cas depuis son premier film. Pour moi, Spielberg est un grand misanthrope, au même titre que Kubrick. Et je pense que leur misanthropie, d'ailleurs, vient également de leur judaïsme, en fait. C'est-à-dire que leur judaïsme n'est jamais vraiment digéré. Et en fait, dans la mesure
d'ailleurs, il l'a renié à un moment. Enfin, c'est raconté. Alors, c'est raconté aussi dans The Fabel. Mais il le dit lui-même qu'il a à un moment renié ce judaïsme.
Oui, tout à fait. Et je pense que le grand problème de Spielberg, et peut-être de Kubrick, mais on y reviendra, c'est qu'en tant que juif, finalement, Dieu n'est pas incarné, par définition, et donc Dieu reste finalement une formule mathématique. Et vous savez, cette fameuse phrase de René Guénon qui disait que la religion chrétienne était solaire, la religion musulmane, était lunaire, et la religion juive est stellaire. Et en fait, je trouve que cet aspect stellaire, on le retrouve vraiment bien dans l'œuvre de Spielberg, puisque toute sa vie, en tout cas dans ses films de SF, il est obsédé par les étoiles et finalement par le paradoxe de Fermi, qui est pourquoi est-ce que l'espace est silencieux et vide finalement. Mmh. Et donc on est là face à un truc qui est presque talmudique, qui est en gros que les étoiles nous communiquent un code crypté, mais qu'on est incapable de déchiffrer. Ce qui est à la base, comme vous dites, de Rencontre du troisième type, qui est un grand film sur le langage. Mais Disclosure Day, est également un film sur le langage. Mais comme vous dites, un langage qui est atrophié, parasité par les écrans.
Oui, je trouvais enfin moins des scènes, en tout cas, parce que le film a, malgré mes quelques réserves, je trouve que le film est quand même très intéressant. Mmh. Et justement, la scène de la révélation, que je trouve vraiment, où tout passe par les écrans. Mmh. Et cette scène où finalement, ce qui doit faire front, c'est une vérité commune. Mmh. Et cette vérité commune n'est vécue que par l'écran personnel. Mmh. Donc, je ne vois pas mon voisin, je ne vois que cette vérité à travers l'écran, et je ne communique pas avec mon voisin. Et c'est assez glaçant. Mmh.
Mais d'ailleurs, ce qui est très beau, justement, c'est qu'effectivement, je pense qu'à peu près depuis Minority Report, effectivement, le monde de Spielberg traduit ce paradisage complet des écrans, donc d'un monde finalement devenu bidimensionnel, alors qu'avant, Spielberg était aussi le cinéaste de la profondeur de champ, mais on y reviendra. Et justement, ce qui est très beau dans Disclosure Day, c'est que la dernière parole de l'héroïne, Emily Blunt, est « écoutez ». Et justement, pour moi, se écouter, en fait, c'est une manière, finalement, de botter en touche ce qu'on vient de voir pendant 2 heures, c'est-à-dire, au lieu de regarder, maintenant, il faut écouter. Il faut revenir au langage. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si cette héroïne, en fait, est atteinte de glossolalie, donc pendant le film, à cause d'une intervention divine ou extraterrestre, qui est cette apparition, comme vous dites, d'un cardinal. Et en fait, la glossolalie, c'est un vieux terme, finalement, qu'on retrouve en mystique, qui est en fait le fait de parler plusieurs langues sans les connaître, si vous voulez. Et donc, c'est apparemment dans l'histoire de la Bible, etc., les vrais ermites, en fait, pouvaient avoir ce pouvoir. Et d'ailleurs, Philippe Cadic en parle également beaucoup dans son œuvre. D'ailleurs, c'est un film très dickien, je trouve. Disclosure Day.
Ben, voilà, c'est effectivement, vous posiez cette question dans le film, la question se pose. Alors, c'est un film, comme tous les films de SF de Spielberg, qui est très religieux, qui est imprégné de ça, et on se demande si il y a toujours cette question avec Spielberg, c'est qui croire, qu'est-ce que croire, et cette espèce de quête. Et qui fait, je crois que vous avez écrit un article dessus, c'est que l'extraterrestre chez Spielberg, c'est aussi à la fois une quête extérieure, mais aussi une quête intérieure.
Oui, toujours. C'est, je pense qu'il y a, il y a quand même une grande, comment dire, il y a quand même dans tout le cinéma américain sur les aliens. On peut aussi penser à Contact de Zemeckis et même à Interstellar de Nolan, qui est son meilleur film à mon humble avis. Il y a toujours ce fait qu'en fait, plus on va loin dans l'espace, plus finalement on revient à nous en fait. Et donc il y a toujours chez Spielberg, je pense que c'est lui qui a un peu initié ce mouvement, cette idée que finalement, à force de contempler finalement l'abîme des étoiles, en fait, on contemple sa propre abîme intérieure. Et souvent, ça revient aussi à un trauma enfantin. Et d'ailleurs, il y a une scène très, très étrange dans Disclosure Day qui nous rappelle que les aliens sont, chez Spielberg, toujours source d'inquiétude, mais également d'émerveillement, et ça depuis le début, même depuis E.T., qui est cette scène où ils se retrouvent dans une sorte de wagon rempli de pianos qui sont transportés par un train.
Une des meilleures scènes que j'ai trouvées du film.
Ouais. Voilà, par un train de marchandises. Et là, en fait, l'héroïne incarnée par Emily Blunt fait une crise d'angoisse qui est complètement... Qui coupe finalement la narration. Et on se demande mais pourquoi Spielberg filme cette crise d'angoisse qui quelque part n'a pas vraiment de lien de cause à effet dans le film. Et en fait pour moi cette scène sert à nous faire comprendre que ce qu'on appelait avant, vous savez, les abductions d'aliens, en fait, sont en fait des traumatismes enfantins qu'on pourrait aisément rapporter à des agressions sexuelles ou à des traumatismes enfantins, en fait. Et ça, c'est chez Spielberg depuis le début, depuis E.T. et depuis Rencontre Troisième Type, où je vous rappelle que la scène d'abduction de l'enfant de 4 ans est à la fois merveilleuse et terrifiante. C'est aussi une grande scène d'horreur.
Oui.
Et d'ailleurs, Rencontre Troisième Type commence comme un film d'horreur, en fait. Il y a ce côté toujours angoissant de la... Bon, encore une fois, on revient à ce que j'appelle le lumineux, c'est-à-dire c'est ni angoissant, ni émerveillant, c'est les deux, en fait. C'est-à-dire c'est un sentiment qu'on ne peut pas définir, qui est une sorte d'angoisse du divin, en fait.
Alors, il y a aussi une facette de ce film, donc Disclosure Day, c'est que ça reprend aussi les thématiques du film de complot des années 70.
Bien sûr. Spielberg s'est beaucoup inspiré, vous savez, c'est un cinéaste du Nouvel Hollywood, donc il avait vu tous les films type Parallax View, The Man Chauviat Candidate, etc. Il vient de là également. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on disait pas film de complot, parce qu'à l'époque, les complotistes n'étaient pas, on va dire, désignés comme étant les imbéciles du coin, au contraire.
Non, c'était des lanceurs d'alerte.
C'est ça, ouais. Voilà, au contraire, c'était des lanceurs d'alerte. Quand on voit les films de Frankenheimer, au contraire, c'était plutôt des cinéastes très malins, voire visionnaires. Et donc, et c'est vrai que j'ai vu des critiques récemment qui disait oui c'est un film complotiste, mais en fait le cinéma de Spielberg a toujours dénoncé l'état profond en fait depuis le début, et à l'époque on disait pas qu'il était complotiste, on disait qu'il était politique en fait tout simplement. Quand on voit E.T. Qui commence quand même par une scène terrifiante où on voit une sorte de police secrète qui traque
un avocat, on voit pas les visages,
on voit juste leurs clés, leurs fameuses clés.
Donc
Spielberg a toujours filmé les différentes couches d'État et la façon dont elles combattent au sein du gouvernement américain pour cacher la présence extraterrestre. Donc je trouve là on voit bien finalement que le monde s'est un peu idiocratisé, si vous me permettez ce néologisme, et de dire que ce film est complotiste, ça serait presque de renier tout le cinéma américain depuis les 70s qui est précisément tourné vers dénonciation politique des différentes couches d'État américain.
Oui, exactement. Alors que dire de Blair Waite, de tous ces films, Conversations secrètes.
Tout à fait, voilà.
Ce serait renier tous ces grands films du 7e art. Eh bien, écoutez, nous en avons parlé et maintenant nous allons l'aborder de manière frontale. Nous repartons en arrière, en 1977, et nous allons écouter, musique signée là aussi de John Williams, qui est le compositeur attitré de Steven Spielberg. Nous allons écouter un des morceaux de Rencontre du Troisième Type.
Thank you.
Alors c'était un extrait de la formidable BO de John Williams pour Rencontre du Troisième Type. Alors Rencontre du Troisième Type, pour éventuellement ceux qui ne l'auraient pas vu, nous suivons donc Claude Lacombe, scientifique du gouvernement français, qui est chargé des activités liées aux ovnis aux États-Unis et qui part à la recherche dans le monde, dans une magnifique d'ailleurs séquence d'ouverture dont nous allons reparler. Donc nous suivons cette expédition de scientifiques qui sont animés par le désir de connaître, qui essaient de comprendre, et aussi on commence déjà à aborder la thématique du langage. Et puis en parallèle, il y a des événements mystérieux arrivent peu après en Indiana, notamment un jeune enfant, Barry, qui sa mère voit son fils subitement réveillé par une force inconnue qui l'attire au dehors. Et en même temps, le personnage de Roy Neary, qui est un employé d'une compagnie d'électricité et qui quitte un soir sa maison pour aller réparer une ligne d'électricité à la suite de gros orages. Et alors qu'il s'arrête, il va, pareil, être en contact avec un ovni et ça va le changer à vie. Alors, Marc Obregon, Rencontre du Troisième Type, c'est un film... Alors, on parle de film somme, de film de très grand classique. Comment le définir et comment vous le définiriez? Est-ce que c'est possible déjà de le définir?
Pour moi, vous avez entièrement raison. Pour moi, c'est un film somme. Et en fait, pour moi, c'est sûrement. Alors, c'est pas celui que je préfère, bizarrement, mais pour moi, c'est son meilleur film, d'un point de vue objectif. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est son premier film, puisque finalement, avant, donc, il a fait Sugarland Express, qui était un peu une sorte de. Comment dire, d'exercice de style pour entrer un peu dans le milieu du cinéma. Ensuite, il a fait Jaws, qui est donc une commande de film d'horreur. Et donc, pour moi, Rencontre, c'est vraiment son premier film en tant qu'auteur, en fait. Et donc, c'est le film qu'il a porté depuis au moins 64, l'époque où il a fait son premier film amateur qui était Firelight, sur un sujet identique. Et donc, c'est vraiment son premier film, je trouve, en tant que tel. Et en tant que premier film, en fait, il contient déjà toute son œuvre, en fait. Et pour moi, il est d'une maîtrise pour son âge. Rappelons qu'il avait, je crois, une trentaine d'années à l'époque. Et il est d'une maturité et d'un symbolisme qui, parfois, je pense, même le dépasse, en fait. C'est ça. C'est à ça qu'on voit d'ailleurs les grands génies du cinéma, c'est que souvent en fait leurs œuvres les dépassent. Et je pense qu'il y a des plans, des scènes qui sont chargées d'un symbolisme qu'il n'a peut-être pas forcément perçu lui-même en les tournant, en fait, quoi. Et donc pour moi c'est un très grand film, puisqu'en plus il est vraiment à la lisière de plusieurs genres de Hollywood. D'abord on va dire le cinéma, on va dire naturaliste hollywoodien. Il y a un peu dans les scènes d'intérieur avec Dreyfus et sa famille, il y a quasiment du Cassavetes, il y a quasiment du Bogdanovich, quoi. Donc il y a vraiment ce côté, cette virtuosité qu'a Spielberg à filmer des scènes d'intérieur et leur donner immédiatement une véracité incroyable, je trouve. Oui. Et en même temps, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette aspiration au divin et à montrer le divin. Et c'est vraiment là qu'il concocte pour la première fois, à mon avis, ce qui sera son style à venir et son plan type qui est, je vais l'appeler, le plan d'admiration. C'est-à-dire, en gros, c'est un plan où on voit le ciel et on voit une troupe d'hommes au premier plan qui regarde le ciel et un événement stellaire ou céleste dans le ciel. Et d'ailleurs, j'avais un prof de cinéma qui s'appelle Pierre Berthomé, pour ne pas nommer, qui avait comparé en fait ce type de plan au tableau de Gaspard Friedrich, en fait. Et alors, je ne sais pas si Spielberg a vu ces tableaux, mais effectivement, on peut retrouver vraiment dans le cadrage et dans la façon dont les hommes sont au premier plan, toujours vus de dos et toujours admirant un ciel qui les dépasse, on peut voir finalement un côté comme ça très romantique allemand.
Alors on va essayer un peu de décortiquer un peu ce film, parce que c'est effectivement, comme vous dites, c'est un film à... En fait, on le regarde, on pourrait s'arrêter à peu près à chaque plan et les décortiquer, les analyser. Voilà, ils sont effectivement vraiment riches de symboles. La séquence d'ouverture déjà, qui se passe dans le désert avec des débris de la Seconde Guerre mondiale, comment vous l'analysez? On pourrait dire que même que le choix des avions n'est pas anodin. Les avions sont des jouets d'adultes. Il y a quelque chose aussi de gigantesque. Comment analyser cette séquence d'ouverture qui, après, et on va l'aborder, contraste énormément avec cette plongée dans une banlieue pavillonnaire américaine.
Bah oui, c'est ce qui est très beau dans le film, c'est que pour le coup, ce film a un vrai côté universaliste au sens chrétien, c'est-à-dire de la mesure où, en fait, on commence par des événements étranges à travers le monde, qui sont étudiés par des scientifiques de haut vol, et et peu à peu, en fait, donc ça fait une spirale narrative qui peu à peu va nous emmener, encore une fois, au plus trivial, qui est une petite famille américaine, avec un père de famille un peu à la ramasse, qui est chef électricien, et qui va lui ressentir des choses qui dépassent, en fait, ses scientifiques, et qui sont bien plus proches de la vérité que eux cherchent, et, mais que lui ne va pas comprendre, parce qu'il n'a pas les moyens techniques ou intellectuels pour les comprendre, en fait. Et donc, en fait, pour moi, tout le film, comme ça, est en spirale. C'est-à-dire qu'on commence vraiment par l'universel pour aller peu à peu vers le trivial, en fait. Mmh. Et les deux dialogues constamment.
Les deux dialogues constamment. Mmh. Et alors, ce trivial fait référence aussi... Spielberg va être constamment... va faire constamment référence à son enfance, à ses traumatismes d'enfance. Et donc là, c'est en tout cas... C'est ce père qui finalement va poursuivre sa quête au détriment de sa famille, et qui est joué magnifiquement par Richard Dreyfuss. Et donc, on a aussi cette particularité de Spielberg d'arriver tout de suite prendre racine dans le trivial, le banal d'une famille américaine,
le domestique.
Et à partir de là, pouvoir broder des thèmes qui les dépassent entièrement.
Oui, tout à fait. Spielberg, c'est un grand cinéaste domestique, et c'est ce qu'on oublie souvent. Notamment, on en parlera dans E.T., mais en fait, c'est vraiment, pour moi, il a vraiment le talent, encore une fois, d'un Cassavetes pour saisir des moments, on va dire, familiaux qui paraissent plus vrais que vrais, quoi. Et on sent vraiment qu'il a infusé, effectivement, sa propre vie. Et d'ailleurs, on pourrait citer, alors, je sais plus, je lisais récemment un critique qui parlait du premier plan de son premier film qui est Duel. Et en fait, le premier plan, c'est un garage dans l'obscurité qui comporte un vélo, en fait. Et donc ce vélo, bizarrement, va revenir constamment dans le film de Spielberg, parce que ça sera même le symbole de Amblin, qui est sa boîte de production. Ça sera évidemment le point d'orgue du film E.T. Et finalement, ce vélo, qui est un peu le symbole de l'enfance oubliée dans une cave, va revenir constamment comme ça, en pointillé dans son œuvre. Et à mon sens, en fait, l'alien chez Spielberg n'est pas tant, enfin, est à la fois une révélation effectivement céleste, divine, mais c'est aussi un moyen finalement de se reconnecter à l'enfance de manière pas psychologique, parce que Spielberg n'est pas forcément un cinéaste très psychologique, mais de manière finalement médiumnique, presque. Il y a vraiment chez lui quelque chose comme ça de symbole, c'est des symboles qui se font écho, et d'ailleurs tout le film Rencontre, en fait, marche comme ça par écho, par forme qui se répète. Donc on va voir Richard Dreyfuss qui va être obsédé par une forme qui est celle de la montagne, donc qui va essayer de la refaire constamment. Donc évidemment il y a une référence biblique, voire hébraïque avec le mont Sinaï finalement.
Oui, et puis d'ailleurs il y a la télévision diffuse des 12 commandements.
Tout à fait.
Les 10 commandements.
Qui est son film préféré. Voilà. À Spielberg, il l'a souvent dit que c'était son film préféré.
Cécile B2000.
Ouais. Et donc il y a ce côté finalement, en fait, c'est cette façon dont finalement le domestique américain, malgré tout, par porosité, peut recréer finalement une inspiration mystique, qu'on retrouve d'ailleurs chez Philip K. Dick. D'ailleurs, c'est un peu le même processus. Comment le trivial, comment la pop culture peut faire advenir finalement le pur mystique par porosité.
Alors j'ai envie de vous citer justement, alors je me suis appuyé notamment pour préparer cette émission sur un livre passionnant qui est l'œuvre de Steven Spielberg, L'art du blockbuster. Alors vous avez deux volumes et c'est de Victor Norek, c'est paru chez Sœur d'édition et c'est absolument passionnant. Et donc il y a notamment une citation de Spielberg sur le personnage de Roy Neary et que j'aimerais juste vous lire. Voilà, il parle de Roy Neary. Il traverse le chaos pour atteindre une sorte de clarté. C'est un artiste qui essaye de sonder les profondeurs de son imagination. Et donc je pense que dans un sens, Rencontre du troisième type est peut-être, voire certainement, le film le plus personnel que j'avais réalisé jusque-là, parce qu'il parlait aussi de la dissolution d'une famille. Et effectivement, on a cette quête de Roy Neary qui fait, alors on fait écho à ce que quand on pense par exemple à The Fabelmans, quand l'oncle de Sam explique que l'art ça va être le déchirement du cœur, et là en l'occurrence Roy Neary choisit de traquer la vérité au détriment de sa famille. Je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants et qui est assez bouleversant.
Oui, tout à fait. En fait, tous les films de Spielberg tournent également autour finalement d'une famille recomposée, finalement d'une famille déchirée qui va trouver le moyen d'être recomposée par d'autres moyens. Au moins, en tout cas, jusqu'à Jurassic Park. Après, on passe dans une autre phase qui est plus noire, mais on en reparlera. Mais effectivement, Roy Neary, c'est Spielberg, et d'ailleurs, tout le film sera quelque part traversé par cette idée de mettre en scène, de trouver finalement le bon angle de vue déjà, parce que finalement, quand il veut faire cette montagne, d'abord il la reproduit en 3D avec des modes de terre. Après, il la reproduit traduit en dessin. Donc il y a cette idée de trouver le bon médium, encore une fois, pour traduire une vision primordiale en fait, qui dessine peu à peu une ambition parallèle à sa vie familiale.
Alors parlons de la musique, parce qu'elle joue un rôle extrêmement important dans le film. Bon, alors déjà la musique de John Williams est absolument sublime, c'est une immense partition, et puis ça va être la musique comme lien fédérateur, lien de communication vers l'au-delà. Et nous allons justement pouvoir écouter une des scènes cultes de dialogue musical entre les humains et les aliens.
Envoyez-lui 6 croches et faites une pause. L'ouverture doit se trouver sur la gauche.
Ils nous ont envoyé d'abord 4 croches, puis un groupe de 5 croches et puis un groupe de 4 doubles croches.
C'est bon, presque toujours en dessous de 9000 angstrums.
Le seul élément que ces phrases ont en commun sont les fractales.
Donc que quelqu'un enregistre tout ça.
Attention. Ils cherchent à nous enseigner un vocabulaire tonal élémentaire.
C'est notre premier jour de classe, messieurs.
Suivez tout ce que fait sa majesté. Collez à sa partition note par note.
Haute fréquence face à Charlie.
Sur une horloge de leurs signaux audio. Nous allons enregistrer le dialogue. Top.
Très grande scène de cette rencontre, Marc Aubryon.
Oui, alors j'ai appris récemment qu'apparemment Spielberg avait participé à un dialogue avec un membre de l'acteur studio qui lui avait fait une analyse que Spielberg avait plus ou moins validée, qui était qu'en fait sa mère étant musicienne et son père étant informaticien, finalement ce dialogue final en fait était une façon de réconcilier son père et sa mère. Et Spielberg lui-même avait dit, j'y ai pas pensé, mais ça me paraît maintenant évident. Donc au-delà de l'aspect psychanalytique, effectivement cette scène est un peu la scène, c'est le climax, comme on dit, du film, et qui résume bien à quel point, en fait, encore une fois, tout ce film est un film sur le langage primordial qui a été perdu, et sur la façon dont finalement l'alien n'est pas tant une créature de l'au-delà qu'une créature capable de réhabiliter un langage primordial, en fait. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui compte dans son cinéma et dans sa vision de l'alien, parce qu'encore une fois, l'alien n'est pas tant vu comme une civilisation galactique que comme finalement un contrepoint de l'esprit humain qui justement marche par psychologie, alors que je pense que Spielberg croit en un esprit divin qui lui marche par computation finalement, et donc par musique, parce que la musique est avant tout une computation justement.
Alors nous étions en 1977, nous allons basculer en 1982 pour peut-être l'un des films les plus connus de Steven Spielberg. Si je vous dis un extraterrestre, si je vous dis un vélo, si je vous dis une lune, un spectacle, un enfant, E.T., dont nous allons commencer par écouter aussi la partition sublime, le thème très connu d'E.T., composé par John Williams, là aussi.
Thank you.
Alors, E.T., un appareil extraterrestre vient d'atterrir dans une forêt en pleine nuit. Ses occupants commencent à faire des prélèvements de plantes. Et puis, un des extraterrestres s'éloigne. Là arrive un groupe d'hommes, des agents du gouvernement américain, dont on a parlé, dont on ne voit pas le visage. Et cet extraterrestre se réfugie dans une petite maison, dans un refuge même, une cabane. Il va être recueilli par un enfant, Elliot, qui a 10 ans. Marc Obregon, E.T., pareil, comment le situer déjà peut-être par rapport à Rencontre du Troisième Type et qu'est-ce qui en fait un film aussi grand.
Bah, écoutez, pour moi, c'est sûrement le film que je préfère de Spielberg. C'est un film qui me tire des chaudes larmes à chaque fois. Et bizarrement d'ailleurs, parce que j'aimerais revenir un peu sur quand même les collaborateurs de Spielberg. Donc, dans Rencontre, il y avait donc Douglas Trumbull qui est le maître des effets optiques, qui a fait le succès donc des apparitions d'OVNI, qui a été un travail incroyable de lumière, de miniature, etc. Et donc pour E.T., en fait, Spielberg a fait appeler à Carlos Rambaldi, qui était à l'époque, le maître italien du latex, et donc qui avait notamment fait King Kong dans ce remake avec Jessica Lange, qui avait fait les créatures de Dune de David Lynch, que moi j'aime bien mais que d'aucuns trouvent raté. Et en fait, ça a été un très long travail puisque Rambaldi, qui était un Italien assez, on va dire, assez véhément, très italien, qui se prenait un peu pour un chef, et Spielberg, en fait, s'entendait assez mal avec lui. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver finalement le design final d'E.T. Et encore maintenant, quand on revoit le film, on est surpris par la façon dont cette créature, qui est quand même finalement une sorte de masse informe, brunâtre, que d'aucuns comparaient même à un excrément, marche encore et peut encore émouvoir. Alors que finalement, c'est un effet spécial quand même très vieilli, qui est celui de la marionnette avec des yeux animatroniques. Mmh. Et en fait, si ça marche pour moi aussi bien, c'est parce qu'en fait, E.T., pour moi, symbolise leur champ de l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, alors certes, on le voit souvent en plein cadre, mais la plupart du temps, en fait, Spielberg le filme vraiment comme une sorte d'hors-champ, comme une sorte d'impensée de l'enfance. Et c'est pourquoi, en fait, finalement, on y met un peu ce qu'on veut, et je pense que chacun y met son enfance, en fait. Alors certes, la créature a des beaux yeux mélancoliques, mais qui, encore une fois, qui ont assez vieilli, et pourtant, ça marche encore. Et je pense que c'est là la magie de Spielberg, c'est qu'en fait, tout est fait par la mise en scène qui permet finalement d'y croire malgré tout. Mmh. Et c'est encore une fois, c'est à ça qu'on voit un grand cinéaste, c'est de nous faire croire finalement à un tas d'électronique recouvert de latex finalement. Et ça c'est quand même un exploit.
Et alors c'est justement assez intéressant, c'est que le film va démarrer. Et il se passe quasiment 1h20 et on ne voit pas un visage d'adulte. Mmh. À part celui, celui de la mère d'Eliott, qui est une sorte de mère courage assez incroyable.
Oui, qui est incarnée par une magnifique Dee Wallace, me semble-t-il, qui est vraiment magnifique, qu'on a revu après dans Cujo d'ailleurs, où elle a un rôle quasiment similaire, mais c'est une digression. Mais oui, actrice trop peu utilisée à mon goût. Oui, en fait, E.T., c'est un film filmé à hauteur d'enfant, et c'est-à-dire peut-être pour ça qu'on a fait après de Spielberg l'auteur enfantin, oui. Un peu nié qu'il n'est pas. Puisque en fait, dans E.T., rien n'est nié, et l'enfant, c'est qu'il filme, qui est en partie la sienne, bien sûr, et assez abrupte, et assez noire, dans la mesure où on est dans un couple divorcé. On est avec une mère, comme vous dites, une mère courage, mais qui est vite dépassée par les événements, avec des gosses laissés à eux-mêmes. Et donc, Spielberg, ouais. Vraiment, encore une fois, un don pour filmer le domestique. Et pour moi, c'est un vrai film, finalement, c'est un film de famille, en fait. Et avant tout, encore une fois, c'est comment une famille va être recomposée. Vous savez, il y a eu à une époque de l'âge d'or d'Hollywood, ce qu'on appelait la comédie de mariage. Je pense que Spielberg pourrait être, finalement, l'apôtre de la comédie de redomestication, finalement. Voilà. De regroupement familial.
Ouais. Mais c'est aussi ce film sur l'enfance montre un enfant, justement, Elliot, qui apprend. Qui va devenir un adulte.
Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi un grand film d'initiation dans la mesure où, en fait, à travers E.T., en fait, avec E.T., il va avoir une sorte de lien télépathique qui fait que E.T. va lui permettre de vivre des choses d'adolescent, peut-être un peu trop tôt, peut-être, mais comme sa première soulerie, déjà à la bière, puisque E.T. boit des bières dans le frigo, oui. Familial, et c'est Elliot qui, en retour, est ivre, ou son premier baiser avec une jeune fille dans sa classe, et pendant ce temps-là, je crois qu'E.T. voit. Alors, je sais plus quel film il voit, je me demande si c'est pas un grand classique peut-être de John Huston qu'il voit à la télévision, je sais plus. Un film avec un film d'amour, mais faut qu'on retrouve quel film.
Oui, je me demande s'il n'y a pas une référence. Si, il y a la référence à L'homme tranquille de John Ford.
C'est ça, c'est L'homme tranquille
de John Ford. L'homme tranquille de John Ford avec John Wayne.
Tout à fait.
Et également Maureen O'Hara.
C'est Maureen O'Hara, tout
voilà.
À fait.
Voilà. Ouais. Et c'est étranger, un très bon, un très très grand film. Enfin, tout est grand chez John Ford. Très grand film de John Ford, effectivement, donc il y a une référence. Appuyé, mais là aussi, alors film, c'est film là aussi extrêmement religieux parce que E.T. arrive. Bon, alors il y a une scène presque de résurrection. Il y a E.T. et dans une petite cabane, on pourrait même dire dans une étable. Il y a cette espèce de figure comme ça, presque christique.
Oui, complètement. C'est vrai que même le fait d'utiliser les initiales E.T., ça fait penser un peu à J.C. déjà, on peut dire ça. Et effectivement, E.T., c'est une sorte de, finalement, on peut dire c'est une sorte de Jésus œcuménique, finalement, un peu. Une sorte de Jésus qui pourrait réconcilier, finalement, les trois religions, quelque part, quoi. Ou en tout cas, le judaïsme de Spielberg, avec lequel il se bat toujours un peu, on a l'impression. Puisqu'on sent qu'il veut croire à l'incarnation, mais que, pour ça, il passe toujours par des chemins détournés, que sont les aliens. Voilà. Finalement, les aliens, pour lui, sont chemin détourné de l'incarnation christique.
Oui, c'est on a l'impression souvent, pour préparer l'émission, donc en revoyant tous ces films un peu à la suite, on se dit c'est un catholique qui s'ignore.
Tout à fait. C'est aussi ma grande conviction, tout à fait.
Oui.
Ou en tout cas, c'est un juif qui se rêve catholique parfois. Tout à fait.
Oui, je pense que ça. Enfin, on y reviendra, mais il y a vraiment d'autres figures du catholicisme qui émaillent sa filmographie et qui ne sont pas juste des vues de l'esprit un peu orientées. C'est vraiment, ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure. Là aussi, comme dans Rencontre du troisième type, E.T. est fondé beaucoup sur l'opposition entre la forêt, entre cette banlieue pavillonnaire extrêmement découpée de façon très géométrique. Il y a aussi, alors, qu'on voit dans Rencontre du troisième type, tout ce jeu de phare et de lumière.
Oui, d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que je trouve que le prologue d'E.T., c'est probablement une des plus belles scènes de cinéma, qui d'ailleurs est selon moi un hommage de Spielberg à l'animation, de dessin animé. Parce qu'en fait, c'est uniquement quasiment des silhouettes qu'on voit sur fond de fumée, sur fond de forêt. Et il y a un côté presque papier découpé. Il y a un côté, à la limite, du cinéma abstrait, du cinéma d'avant-garde. Et c'est là qu'on voit que Spielberg est un grand formaliste, parce que, en fait, comme vous dites, dans une première heure, déjà, il n'y a que des enfants. Et dans la première demi-heure, il n'y a quasiment que des silhouettes sur fond de fumée, sur fond de phare de voiture. Et il y a ce côté presque, je dirais, presque élémentariste de la mise en scène, quoi. Quelque chose qui se base sur les éléments, sur l'alchimie des éléments, et qui se passe de parole. D'ailleurs, c'est complètement muet pendant presque 20 minutes.
Et alors, justement, vous allez nous parler, parce que c'est un film, on le sait, Spielberg utilise à merveille toute la grammaire visuelle cinématographique. Donc, il manipule à perfection tous les symboles. Et il y en a justement un qui est très intéressant, ce sont les clés. Ce fameux trousseau de clés que porte un des agents du gouvernement américain et qui est un peu cette espèce d'immanence du danger.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a, je crois que c'est un des premiers plans du film où on insiste vraiment sur les clés que transporte sur un mousqueton, donc un de ces agents du gouvernement. Et à mon sens, elle traduit justement le passage impossible de l'enfance à l'âge adulte et la façon dont le gouvernement finalement aussi verrouille l'enfance quelque part. Puisqu'il y a aussi toujours cette idée en sous-texte que l'enfance est sacrifiée chez Spielberg. Il y a toujours ce traumatisme pour moi initial, sur lequel d'ailleurs il n'a jamais vraiment voulu s'expliquer. Ça se trouve, c'est un traumatisme très très simple, sans aller chercher dans les... Mais en tout cas, on sent toujours qu'il y a ce traumatisme et on sent dans cette présence des hommes munis de clés quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement presque... pervers, le mot serait un peu trop dur, mais en tout cas quelque chose de...
La clé dans le conte, si on reprend la signification même de la clé dans le conte, on va pas faire mes barbes bleues par exemple, la clé est un instrument phallique par essence. Quoi.
Oui, et une manière de verrouiller l'inconscient aussi, de verrouiller l'inconscient de l'enfant, et justement comme vous dites, E.T. va se réveiller dans une étable, et une étable c'est justement l'endroit qui n'a pas de clé forcément. Voilà,
Et alors, là aussi j'ai envie de vous citer Spielberg, une citation qui est dans le livre de Victor Nored que je conseille à tous Spielbergiens. E.T. du haut de ses 600 ans est certainement l'enfant le plus perdu de tous mes films, mais il n'est pas plus perdu qu'Eliot, perdu dans un divorce sans vrais amis. Et c'est ce qui fait le lien entre E.T. et Eliot, l'alien et l'aliéné. Ce sont deux âmes, des âmes perdues qui ont un besoin absolu l'un de l'autre pour une très courte période afin tous deux de survivre. spirituellement. Pour moi, E.T. est le film le plus spirituel que j'ai fait.
Oui, je pense que c'est, je pense qu'E.T. c'est le plus spirituel dans la mesure où, en fait, je pense que pour Hitler, pour Spielberg, je sais pas pourquoi j'ai fait ce lapsus.
Oui.
C'est très étrange. j'allais venir après, je pensais en même temps à La Guerre des Mondes, donc j'allais venir
aussi à 1941.
Je pensais plutôt à La Guerre des Mondes. Mais en fait, pour Spielberg, en fait, je pense que l'enfant, finalement, c'est le croyant ultime, en fait. C'est vraiment, c'est celui qui est à la foi par essence, finalement. Et en fait, je pense que le grand drame que veut décrire Spielberg dans tous ses films, c'est la façon dont l'enfant perd sa foi, cette foi immanente de l'enfant. Je pense que pour Spielberg, l'enfant est croyant par essence. C'est-à-dire que tout enfant est croyant. L'humain entier a la foi. Et finalement, c'est la civilisation, c'est la technologie qui va lui apprendre, lui désapprendre la foi, en fait. Et donc, effectivement, Elliot, c'est un croyant. C'est presque un croyant, vous savez, dans les catacombes de Rome, quelque part. C'est presque un pré-chrétien, en fait. Il y a cette foi qui dépasse finalement la spiritualité.
Et d'ailleurs, il y a une citation d'Eliot à l'intention de E.T., c'est « Toute ma vie, je croirai en toi ». Voilà, c'est vraiment la pureté de l'enfance, la foi du charbonnier de l'enfance.
Tout à fait.
Ouais. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est un très grand film chrétien.
Ouais. Tout à fait.
Alors, le temps passe et on va faire un petit bond dans le temps puisque...
J'aimerais juste faire une insiste pour revenir un peu sur les conditions de tournage.
Oui.
C'est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous savez que les castings d'enfants sont toujours très longs, très compliqués. Je crois que Spielberg a fait un casting de 500 enfants pour trouver Elliot, le jeune Elliot.
Oui.
Et donc, sa vidéo est trouvable sur YouTube et elle est étrangement très proche de la vidéo du casting d'Antoine Douanel pour les 400 coups, en fait. Enfin, du jeune Jean-Pierre Léo, en fait.
Et d'ailleurs, c'est Truffaut qui, après les rencontres du troisième type, a conseillé à Spielberg de faire un film centré sur l'enfant.
Tout à fait.
Voyant
tout à fait.
La réussite
Et les deux vidéos se ressemblent beaucoup parce qu'en fait, les deux enfants ont une sorte de gouaille à la fois touchante et à la fois très. Une gouaille très fragile, en fait. C'est-à-dire que notamment, jeune Elliot parle de son chien mort, se met à pleurer, puis après il rigole. Et pendant que lui, Jean-Pierre Léo, je crois qu'il dit: ah, moi j'ai la gouaille et tout. Mais on voit bien qu'il est hyper triste de visage. Donc, les deux vidéos sont vraiment à mettre en regard et voilà, on peut y trouver une sorte de dialogue intéressant.
Oui, mais qui est au contraire très intéressant. Oui. Alors, nous partons cette fois-ci en 2001 et nous allons aborder un film alors, qu'il a aussi a eu beaucoup moins de succès, mais peut-être été reconnu peut-être tardivement, mais qui est un immense conte très mélancolique, là aussi, et très sombre. C'est pour ça qu'effectivement, quand vous dites que assimiler Spielberg à quelque chose de naïf, enfantin, dans le mauvais sens du terme, est une erreur absolue, parce que quand on regarde ça, et puis alors plus on va avancer, on va se rapprocher un peu de notre époque, plus la noirceur, un peu la mélancolie spielbergienne va prendre le dessus. C'est un film, c'est AI, Intelligence Artificielle, dont nous allons écouter un extrait de la musique de John Williams.
euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Alors nous sommes au 22e siècle, une partie de la Terre a été ravagée par le réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer. Cela a anéanti de nombreuses villes, réduisant ainsi la population mondiale. Et c'est ainsi qu'arrivent des mechas, des robots androïdes qui ont été créés en remplacement un peu de ces humains disparus. Ils servent à répondre aux besoins, mais ils ne peuvent pas aimer. Et pourtant, c'est l'une des missions du professeur Alan Hobby qui entend bien créer un enfant capable d'aimer, un robot capable d'aimer. Et en parallèle, on suit Henry et Monica Sweeton qui vivent une situation extrêmement douloureuse. Leur enfant est plongé dans le coma et ils accueillent ce robot capable d'aimer, mais capable d'aimer, il faut pour ça activer une formule. Marc Aubrigon, AI Intelligence Artificielle, parlez-nous un peu de ce film qui a eu déjà une genèse plus que longue, plus que compliquée, avec tout ce lien avec Kubrick justement, dont vous avez parlé. Et puis qu'il y a eu aussi un accueil très, très particulier.
Oui, alors en fait, ça faisait des années, je pense peut-être une vingtaine d'années, que Kubrick et Spielberg avaient une relation privilégiée, parce que je crois que Kubrick avait même fait installer un fax direct dans le bureau Spielberg. Ils se parlaient tous les jours à une époque, et Kubrick, on sait qu'il était très dur avec les autres cinéastes. Spielberg était un des rares qu'il appréciait vraiment, notamment pour Rencontre du Troisième Type. Et voilà, et Spielberg évidemment adorait 2001, qu'il avait beaucoup inspiré également pour Rencontre. Donc voilà, et donc en fait, Kubrick depuis longtemps voulait adapter Pinocchio en science-fiction. Et donc il a eu cette nouvelle de Brian Aldiss, dont j'ai oublié le nom, mais qui était une petite nouvelle.
Les Super Toys du
Rencontre. C'est ça, les Super Toys. Et en fait, Kubrick, qu'on sait toujours très maniaque, en fait, voulait attendre qu'une technologie soit suffisamment développée pour pouvoir créer en fait un vrai être artificiel qui soit filmable, c'est-à-dire un vrai automate qui ressemble à un enfant et donc de façon presque invisible finalement. Quoi. Et donc évidemment la technologie peinait à arriver et donc le projet capotait plus ou moins. Et il se trouve que de fil en aiguille, Spielberg, je pense peut-être, Kubrick se sentait un peu sur la fin peut-être inconsciemment et donc s'est lancé à fond dans les Wide Shots et en fait il s'est dit je vais confier mon projet à Spielberg. Et donc, je pense qu'il voyait aussi le potentiel en France. En fait, je pense qu'il voyait Spielberg peut-être un cinéaste peut-être plus adapté que lui-même pour filmer un enfant robotique. Et donc, pendant très longtemps, Spielberg s'est également demandé comment faire cet enfant robotique. Et lui, contrairement à Kubrick, a choisi de prendre un vrai enfant qui est donc le jeune L.A. Joel Osment, qui est très bon par ailleurs. Et à le transformer un peu numériquement, à lisser sa peau pour la rendre robotique, à supprimer les clignements d'yeux au montage, etc. Donc le rendu pour moi est très bon et je pense que un vrai automate aurait été peut-être un peu étrange. Mais justement Kubrick cherchait ce qu'on appelle, vous savez, l'uncanny valley, qui est la vallée de l'étrange, qui est ce moment où le robot, plus il est parfait, plus en fait sa différence avec l'homme se voit en fait. Et donc ça c'est vraiment la théorie des roboticiens, c'est qu'en fait voilà, plus un robot ressemble à l'homme, plus en fait il est étrange. Bref. Et donc voilà, donc finalement le projet a mis beaucoup de temps à se faire et je pense que à une époque Kubrick et Spielberg se parlaient vraiment tous les jours sur le projet et je pense que Spielberg vraiment y a mis tout son âme, tout son cœur. Pour lui c'était aussi un hommage à Kubrick, un hommage au cinéma qu'il a aimé et c'est pourquoi la réception du film qui est public comme critique a été un vrai camouflet pour lui puisque le film est sorti en plein été 2001, juste avant le 11 septembre par la Warner qui l'a un peu sacrifié comme ça. Sortir un film de SF en été entre Tomb Raider et voilà, c'est un peu compliqué et donc le film a été très mal reçu, beaucoup même se sont moqués du film en disant voilà, Spielberg transforme Kubrick en une sorte de fable niaise, encore une fois toujours cette image niaise qui lui colle à la peau alors que pas du tout. Et en fait Spielberg a vécu une vraie dépression apparemment après le film tant il y avait mis du cœur en fait, voilà. Et c'est vrai que c'est un film alors c'est un film magnifique, il faut le dire, mais c'est un film qui a beaucoup de couches de compréhension qui ne se donne pas facilement, puisqu'effectivement il y a ce socle kubrickien qui donc on sait que Kubrick, lui ce qu'il aime peut-être son seul, sa seule obsession dans le cinéma, c'est de montrer comment les émotions et comment les cerveaux sont manipulés finalement par la société. Et donc pour lui finalement l'automate était peut-être le symbole de cette manipulation mentale, voilà, qu'il a toujours voulu dénoncer, que ce soit dans Orange Mécanique, que ce soit dans les Voyages Chaudes, etc. Et je pense que donc il y a ce côté kubrickien de la manipulation mentale, et il y a ce côté spielbergien finalement de l'enfance, de l'émotion, de la famille recomposée. Et donc c'est vrai que c'est un film pour ça qui est assez schizophrène, mais qui est pour moi magnifique.
Ouais. Et d'ailleurs, et alors ce qui est en plus très déroutant, c'est que lui-même Spielberg affirme dans une interview en 2002 que les gens font comme s'ils connaissaient Stanley Kubrick et pensent qu'ils me connaissent, mais la plupart ne nous connaissent pas. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que toutes les parties d'AI que la plupart des gens considèrent comme venant de Stanley sont de moi. Mmh. Et celles qu'on m'a accusé d'avoir adouci et rendu sentimental sont toutes de Stanley. L'ours en plus, notamment le personnage de l'ours en plus, c'est Stanley. Les 20 dernières du film sont complètement de Stanley. Les premières 35-40 minutes, tout ce qui se passe dans la maison, c'est mot pour mot le scénario de Stanley, sa vision.
Tout à fait. Oui, d'ailleurs, on sait que chez Kubrick, l'ours en peluche, c'est le symbole de l'inceste. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui remet souvent dans ses films. Et c'est un symbole, alors, soit de l'inceste, soit en tout cas d'une enfant, justement, traumatique. Donc, c'est pas étonnant que Kubrick ait voulu mettre ce symbole dans le film. Puisque finalement, qu'est-ce qu'un enfant automate, sinon un enfant dissocié, traumatisé? Je pense qu'il y avait aussi, chez Kubrick, cette volonté de montrer une enfance, encore une fois, dissociée. Comme dans Shining, d'ailleurs. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a eu vraiment une méprise sur ce film, une méprise critique et publique, parce que le film n'a pas trouvé son public. Et quand on le revoit maintenant, on se rend compte à quel point, au contraire, c'est peut-être ce qui s'est fait de mieux en science-fiction pendant cette décennie.
Ouais. Et c'est un film extrêmement visionnaire. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui tous les élans transhumanistes qui jalonnent toute l'actualité, regardez AI, intelligence artificielle, le vrai transhumanisme tel qu'il est décrit est glaçant.
Tout à fait.
Glaçant. Le personnage joué par Leslie Osment est absolument... bouleversant et pose ces questions: peut-on aimer? Est-ce qu'un robot peut aimer? Et on est totalement pris. Là aussi, beaucoup d'influences religieuses, et notamment ce personnage de la fée bleue qui est une sainte vierge et qui est un peu le vraiment la fin est absolument bouleversante. Et quand on le regarde, alors si on le regarde en plus avec un regard un peu chrétien, on est vraiment bouleversé par cette fin.
Oui, bien sûr. Et en plus, on retrouve vraiment le thème principal du magnifique conte de Carlo Collodi, est-ce qu'un être artificiel peut aimer? Et ce qui rejoint également la principale thématique de Philip K. Dick, j'en reviens toujours, qui est qu'on voit dans Blade Runner, qu'on voit dans plein de ses films, qui sont: est-ce que les robots peuvent aimer plus que les humains? Et pour Dick, oui. Pour Dick, justement, l'empathie est universelle, et à partir du moment où il y a création, même synthétique, il y a empathie. Puisque l'empathie, c'est ce qui fait se lever un être, en fait. C'est ce qui fait que l'être, c'est le lien, en fait, ultime de l'être, bien plus que le sang, bien plus que l'air. Ce qui fait qu'un être est être, c'est l'empathie, en fait. Et d'ailleurs, il y a tout un fond très profond dans AI. Il y a un fond platonicien, il y a même des références à Aristote, justement, à qu'est-ce que l'individuation. Il y a vraiment toute cette idée. Il y a une scène magnifique où le jeune automate, donc jeune robot, voit un de ses clones, en fait, et où il se dit: pourquoi moi je suis moi, en fait. Enfin, il y a vraiment ce côté.
Voilà.
Il y a ce rapport vraiment presque médiéval à l'idée d'individuation. Pourquoi est-ce que l'individu est... Pourquoi est-ce que le jeu est jeu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de collectif, finalement? C'est un sujet très profond. Là, on sent un peu le côté Kubrick, mais on sent aussi le côté Spielberg, justement, dans l'idée... D'ailleurs, il y a une scène qui est mal comprise, parce que la scène, tout le monde y a vu des aliens, alors qu'en fait, ce sont clairement des IA, en fait, les fameuses créatures qu'on voit à la fin. Puisqu'en fait, le film ne parle que de ça, ne parle que de la façon dont en fait, l'IA est l'avenir de l'homme, en fait, quelque part, quoi.
Oui, non, cette fin a été souvent très très discutée, mais c'est un film qui a été depuis réhabilité, et tout le monde s'accorde à dire que c'est un très très grand film, un film sur l'amour aussi, cet amour qui a valeur d'éternité et qui est absolument bouleversant. Et là, on va commencer. On va avancer un peu dans la filmographie de Steven Spielberg. En parlant, donc, l'année suivante, 2002, sort un film, qui puise
dans Philip K. Dick,
Philip K. Dick, qui est Minority Report, et pareil, beaucoup de thèmes brassés. On va écouter un dialogue. Alors, j'ai sélectionné de la VF pour mes chers auditeurs, et vous allez reconnaître la voix d'un acteur français assez connu.
Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime.
Vous y revoilà.
Je ne suis pas avec l'association de défense des libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi.
Mais vont le faire.
La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais.
Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal ?
Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps.
Pourquoi vous l'avez rattrapée ?
Parce qu'elle allait tomber.
Vous êtes certain ?
Ouais.
Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Le fait que vous empêchiez les choses d'arriver ne change pas le fait qu'elle devait arriver.
Jamais eu de fausses preuves irréfutables ? Quelqu'un a l'intention de tuer son patron ou sa femme, mais il ne le fera jamais. Comment les précoques font-ils la différence ?
Les précoques ne voient pas ce que vous avez l'intention de faire, juste ce que vous allez faire.
Alors pourquoi ils ne voient pas les viols, les agressions ou les suicides ?
À cause de la nature du meurtre. Il n'y a rien de plus destructif pour le tissu métaphysique qui nous relie que le meurtre inopportun d'un être humain par un autre.
Je n'ai pas l'impression que c'était Walt Whitman.
C'était Iris Cineman. Elle a mis au point les précoques, conçu le système, expérimenté l'interface.
Alors, pour les auditeurs qui auraient vu le film, vous reconnaissez cette scène. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais vous remettre un peu de contexte parce que ça peut sembler un peu abscon. Donc, nous sommes en 2054 à Washington. La personne, vous avez peut-être reconnu la voix d'Yvan Attal qui joue... qui double Tom Cruise, et Tom Cruise joue un policier qui est le chef d'une organisation gouvernementale plutôt, expérimentale, qui s'appelle Pré-Crime, et qui s'appelle John Anderton. Et ce John Anderton dirige cette unité qui, en fait, utilise ce qu'on appelle des précogs, qui sont trois humains avec des capacités psychiques, on va dire, surhumaines. Je vous expliquerai, enfin le film en explique pourquoi, la raison. En fait, ce sont trois humains qui permettent, qui ont des capacités qui leur permettent de deviner l'avenir par le biais d'images qui sont projetées. Et ces images projetées, ce sont des images de crimes, des crimes de sang, et qui permettent à cette unité de pré-crime d'arrêter les humains, enfin les gens, avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Donc on arrête des gens qui n'ont factuellement pas commis de meurtre, mais qui vont le faire. Donc c'est là tout le dialogue, parce que vous avez en face Danny Whitworth, qui est un agent du ministère de la justice, et qui est joué par Colin Farrell, et qui enquête sur cette unité, et pour savoir si, factuellement parlant, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. En tout cas, voilà, je pose le décor d'un film qui est, pareil, passionnant, qui brasse énormément de thèmes, de relectures, Minority Report, qui est sorti, alors, en 2002, mais qui a été tourné en 2001, avant le 11 septembre, et pourtant, quand on le voit, on a l'impression déjà de voir un film post-11 septembre. Ouais.
Alors, pour moi, il faut revenir un petit peu...
Allez-y, justement, au contraire.
Pour moi, il faut revenir un peu à la genèse du film, parce que c'est une genèse assez complexe, en fait. À la base, c'était un film qui devait être la suite de Total Recall, puisqu'à l'époque, la Canon qui avait produit Total Recall, finalement, avait acheté les droits de plusieurs nouvelles de Philip K. Dick, et donc avait voulu, suite au succès du film de Verhoeven, finalement, faire la suite de Total Recall avec cette nouvelle qui n'a aucun rapport, mais ils voulaient, voilà, ils avaient engagé plusieurs scénaristes pour joindre les deux bouts, etc. Et finalement, c'est Dan O'Bannon qui est connu pour... notamment avoir participé à Metal Hurlant en France, et donc à partager un peu avec les Français ce côté un peu truculent, un peu futur noir, très, très humoristique. Nous, on retrouve d'ailleurs des traces dans ce Minority Report, qui en fait avait fait un premier jeu du scénario qui n'avait pas du tout convenu à la Canon, et du coup le scénario a été dans les tiroirs de la Canon jusqu'à ce que la Canon disparaisse malheureusement. Et en fait, à l'époque, Tom Cruise est au sommet de sa carrière, et Tom Cruise, je dirais, en acteur intelligent, cherche un peu à casser son image aussi, il cherche un peu à se mettre un peu en danger. Et donc, lui, Spielberg, dirige depuis longtemps. Spielberg, on le sait, traverse une période un petit peu de dépression suite à l'échec d'AI. Et en fait, on lui propose plusieurs films. On lui propose Memories of Geisha, qui refuse. Il se tape même pour faire la suite de Harry Potter, même à une époque, il commence à développer le projet.
Oui, finalement, ce sera Chris Columbus qui reprendra la réalisation.
Et donc, en fait, comme quand Tom Cruise lui propose de faire ressort ce scénario de nulle part, lui met devant les yeux, Spielberg dit OK, on y va à fond. Et d'ailleurs, le film est tourné deux ans avant sa date de tournage officielle. Donc vraiment dans une sorte d'urgence. Et on sent que Spielberg, en fait, avec ce film, veut un peu... Il y a un côté dans ce film assez punk, finalement, assez colérique, qui en fait un film vraiment à part. C'est un film très noir, comme vous l'avez dit. Un film très burlesque, puisqu'en fait, Spielberg s'amuse vraiment à prendre les figures de Tom Cruise comme une sorte presque de figure de cartoon, presque à la Chuck Jones, presque à la Buster Keaton, et à lui infliger tous les...
Tous les sévices du monde.
Tous les sévices du monde, il perd ses yeux, il passe son temps à courir de Caraïbes dans Sia. Enfin, il y a un côté vraiment grotesque, humoristique et très noir à la fois, presque de beaucoup d'humour noir. Et donc c'est un film vraiment à part. Et c'est un film aussi où je pense que Spielberg a voulu s'effacer un petit peu en tant que créateur pour vraiment faire un pur film de cinéma qui fait révérence à tous les cinéastes qu'il aime. Donc il y a un côté évidemment très, très Hitchcock, mais aussi très De Palma, d'ailleurs. De Palma, tout le début on dirait du Snake Eyes, avec cette multiplication d'écrans qui filme un même meurtre mais par plusieurs points de vue. Donc voilà, je pense qu'il y a cette envie de Spielberg de faire un film coup de poing déjà, et un pur film de cinéma, peut-être avec moins de thématiques qui lui sont profondes, même si on la trouve en filigrane, mais voilà, vraiment de faire un film coup de poing et un film, je pense un film assez punk. Et c'est un film qui en ça est vraiment à part dans son œuvre, et qui annonce une période plus noire qu'on va retrouver avec La Guerre des Mondes, et qui montre vraiment un Spielberg énervé. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que deux films sont cités ouvertement dans le film, ce sont des films de Samuel Fuller. Donc, citation étonnante de la part de Spielberg, qui était plutôt un Fordien, plutôt.
Alors que Samuel Fuller, c'est vraiment le mal-aimé d'Hollywood.
Et je pense que cette scène qui apparaît, je crois que c'est la maison de bambou qui apparaît dans le film. Cette scène qui apparaît comme ça gratuitement, tout à coup, projetée sur le fond d'un chirurgien bas de gamme. Je crois que c'est un peu une sorte de manière de Spielberg de dire à Hollywood, voilà, maintenant, allez tous vous faire foutre, si je puis un peu m'exprimer comme ça.
Vous pouvez. Mais c'est un film, effectivement, vous l'avez dit, pétri de références, donc Hitchcock, De Palma, Snake Eyes, vous l'avez dit au début avec la multiplicité. Il y a aussi une scène en fait de poursuite où on voit en fait tous les appartements qui fait penser énormément à De Palma, le voyeurisme de De Palma, cher à De Palma. Ouais. De Palma qui lui-même était totalement inhibé d'Hitchcock. Les deux se répondent, c'est passionnant. D'ailleurs, il y a même une actrice, Jessica Harper, qui joue dans le film Minority Report, qui a été une actrice fétiche de De Palma.
Ouais, c'est vrai.
On est dans l'anticipation. Alors, je crois en plus qu'il avait fait appel notamment à des spécialistes pour être vraiment dans l'anticipation la plus rigoureuse qui soit, et on le voit encore. Ouais. On est en 2002, l'écran tactile n'est pas encore arrivé, il arrive en 2007, donc il y a déjà tout ce côté.
Le film n'a pas vieilli pour un sou.
En fait, on voit déjà que tout arrive, quoi. La reconnaissance, en tout cas, on est sur une reconnaissance rétinienne, c'est un film d'anticipation qui est aussi extrêmement rigoureux. Ouais. C'est-à-dire que tout arrive, tout est déjà arrivé, on le regarde aujourd'hui, c'est vertigineux.
Et justement, je pense que c'est le premier film où on passe vraiment dans le Spielberg noir, dans la mesure où c'est le premier film où, encore une fois, tout à l'heure on parlait d'Exclusure D, au fait qu'il n'y avait pas de ciel visible dans Exclusure D, et là c'est pareil, c'est un film qui est sans horizon, c'est un film très urbain, très cyberpunk, et c'est le premier film justement où finalement Spielberg montre un monde dans lequel l'écran remplace l'horizon, dans lequel l'écran remplace le ciel, donc en fait l'écran remplace l'émerveillement, et donc d'où ce côté étouffant, d'où ce côté paranoïaque, d'où ce côté cette fuite, mais qui ne sert à rien, parce que de toute façon, où qu'il aille, l'écran le retrouve, quoi. Les drones de l'époque, c'est son premier film vraiment misanthrope au sens pur du terme.
Et c'est grand, pareil, là aussi, on est dans une grande référence au cinéma du complot, cinéma paranoïaque des années 70. On pense à Blowout de Brian De Palma, et toute la fin, alors là, pareil, chers auditeurs, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Mais toute la fin peut être comme AI, complètement renversée. Tout n'est qu'illusion. On pense, est-ce que Tom Cruise existe réellement? Il n'est pas, en tout cas, prisonnier. Ça peut être aussi c'est une fin aussi très, très nihiliste. C'est aussi, on bascule, c'est-à-dire que le Patriot Act n'est pas encore arrivé, c'est la société de la sécurité prévaut sur les libertés, c'est un grand film pour ça aussi,
De surveillance globale, quoi. Tout à fait.
Et alors justement, il nous reste 14 minutes, c'est parfait le moment idoine pour basculer vers aussi très très grand film, le film peut-être le post 11 septembre, peut-être un des plus grands. La Guerre des Mondes, La Guerre des Mondes, dont nous allons en fait écouter l'introduction du film avec la voix française de Morgan Freeman.
Personne n'aurait cru, dans les premières années du 21e siècle, que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Que, tandis que les hommes s'occupaient à leurs différentes activités, ils étaient observés et étudiés. D'aussi près qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Avec une suffisance infinie, les hommes allaient de ci, de là, à travers la planète, confiants dans leur empire sur ce monde. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, des intellects vastes, froids et hostiles considéraient notre planète avec des yeux envieux. Et lentement, et sûrement, dressaient leurs plans contre nous.
Alors, si vous êtes adepte de films qui gentils, qui flattent gentiment vos envies de sécurité, vos envies d'apaisement, La Guerre des Mondes n'est peut-être pas le film à voir. Par contre, si vous souhaitez, c'est comme la pilule bleue, la pilule rouge, Matrix, si vous souhaitez voir vraiment la réalité, La Guerre des Mondes est un film essentiel. Voilà, comme vous l'expliquait la voix française de Morgan Freeman, qui est Benoît Allemann, la Terre est observée par les extraterrestres, ils se décident à l'envahir, en tout cas à aller chercher des machines qui sont déjà dans la Terre depuis longtemps. Et comme des facettes de Spielberg, c'est qu'on part d'une scène, d'un microcosme familial. En l'occurrence, c'est Tom Cruise qui joue le personnage Ray Ferrier, qui est un père divorcé, totalement immature.
Un beauf, une sorte de beauf.
Oui, oui, voilà, beauf, avec sa Ford Mustang chérie, qui est grutier, voilà, qui a des horaires décalés et qui a deux enfants de garde ce week-end, mais voilà, il s'en fiche à peu près royalement. Et c'est un film aussi d'initiation. Voilà, vous allez voir un peu nous raconter tout ça, Marc Aubrigon.
Je dirais même que c'est un film de contre-initiation, en fait. Tout comme Minority Report, puisqu'en fait, pour moi, c'est parti de la période noire de Spielberg, dans laquelle finalement les héros n'ont aucune évolution entre le début du film et la fin du film. Ils n'ont pas évolué, en fait, d'un chouïa, en fait. Et donc ça montre bien que ce sont des films de contre-initiation, dans la mesure où, en fait, tout ce qu'ils vivent finalement ne les sert pas à évoluer, mais au contraire, je dirais, à s'enferrer dans leurs conditions humaines. Alors même si le film a une apparente happy end, comme Minority Report, ce sont pour moi des fausses happy end qui sont en fait très misanthropes et très nihilistes, en fait. Et d'ailleurs le personnage de Tom Cruise est très peu aimable.
Par contre, c'est peut-être que les enfants, eux, deviennent pour le coup des adultes, enfin se confrontent. Effectivement, le personnage de Tom Cruise, lui. Il est réhabilité un petit peu vers la fin, mais effectivement, là aussi, il est dans un rôle totalement à contre-emploi par rapport à Minority Report. Mais par contre, les deux enfants.
C'est vrai, évoluent. Heureusement, l'enfance est sauvée, comme souvent chez Spielberg. Tout à fait.
Ouais. Et donc, pareil, alors, c'est un film qui est une puissance absolue. L'arrivée des extraterrestres est symbolisée par un orage magnétique. Là aussi, on est dans des... En fait, c'est un film sur l'apocalypse. Oui. Et sur le... Alors, oui.
En fait, si vous voulez, pour moi, j'aime beaucoup les films d'hommes, mais en fait, pour moi, son vrai film sur la Shoah, c'est La Guerre des Mondes. En fait, pour moi, c'est traversé d'images que je qualifierais d'issue de la Shoah, comme cette scène, on va peut-être reparler, mais cette scène où la petite fille voit un fleuve qui est rempli de cadavres qui passent devant elle, ce train en flammes qui passe, qui est un plan qui dure une seconde, mais qui glace le sang. Ou ces scènes de paquebots envahis par des hordes de gens qui recherchent pour moi c'est un film sur la Shoah, en fait. C'est
le cadavre du Boeing
c'est son vrai film sur la Shoah, je pense, à mon humble avis, et c'est son vrai film vraiment où il montre qu'il a plus trop d'espoir dans l'humanité, parce qu'il y a vraiment des scènes de foule. D'ailleurs, j'ai un critique qui les a comparées aux scènes de Romero, vous savez, des films de zombies de Romero. Il y a vraiment ce côté post 2001, encore une fois, même si qui montre que Spielberg a de moins en moins de foi en l'humanité, et ce film est d'un grand nihilisme. Et comme vous dites, les enfants sont sauvés, même si j'ai des petits doutes pour le garçon qui dont l'enrôlement dans l'armée américaine, j'ai toujours trouvé assez suspect et assez ellipsé, pour être honnête.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait on pourrait se poser des questions. Moi, sur l'enfance, effectivement, vous parliez de la rivière. On pense à un chef-d'œuvre du cinéma quand on voit cette scène. Faut savoir, alors, pour rappeler, Tom Cruise interdit à sa fille, surtout lui dit tu fermes les yeux, elle va à la rivière et en fait elle ouvre les yeux. Mmh. En fait, elle va devenir quelque part adulte en voyant tous ces cadavres et en réalisant l'horreur qui l'entoure. Cette scène-là fait penser effectivement à la rivière de la nuit du chasseur de Charles London avec Robert Mitchum. Mmh. Immense film, et qui est un immense film sur l'enfance et sur le fait de devenir adulte.
Tout à fait. Effectivement, il y a vraiment dans ce film tout un dialogue aussi de mise en scène sur l'idée d'espace intérieur extérieur. Notamment, il y a ce fameux plan séquence qui fait beaucoup penser à celui des Fils de l'Homme, film que Spielberg admirait beaucoup, qui se passe dans la voiture. Donc quand Tom Cruise fuit avec ses deux enfants la ville qui est attaquée par les extraterrestres, il y a vraiment tout un la caméra finalement tourne autour de la voiture, rentre dedans puis ressort, et en fait il y a cette idée en fait que le domestique est menacé presque à chaque seconde, mais que justement la petite fille, je crois qu'elle réclame justement son safe space déjà à l'époque, et donc il y a vraiment cette idée que le noyau domestique est peut-être la dernière cellule qui résiste encore à l'agression humaine, et que voilà, mais qu'il doit être à chaque seconde presque réinventé pour pouvoir survivre. Et c'est d'ailleurs ce que va essayer de faire Tom Cruise, c'est de malgré tout de réinventer son noyau familial à chaque seconde en fait.
Et alors, il y a une chose très aussi intéressante, c'est toute la symbolique du sang. Ce sang qui, en fait, c'est de l'industrie. Il y a aussi une critique très acerbe de l'ère industrielle où le sang est un engrais. Des humains est un engrais. Une métaphore des ravages de la société industrielle. Pareil, le canevas est là, c'est-à-dire on part d'une famille américaine et puis on a l'extraordinaire qui arrive. Et alors une remarque moi qui m'a semblé une chose aussi très intéressante, c'est que le film a ce qu'on peut appeler ça un défaut scénaristique, mais le Jean-Marie Roth, qui a écrit un livre passionnant sur le scénario, avait noté ça notamment dans Indiana Jones et Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est que Tom Cruise, qui est le personnage principal, n'a aucune incidence sur la fin du film. Comme Indiana Jones n'a aucune incidence sur la fin des Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est que quoi qu'il arrive, l'Arche d'Alliance va détruire les nazis, et là, bon, les extraterrestres, là je divulgage totalement, mais les extraterrestres mourront, mais sans l'apport de Tom Cruise. Et alors donc, quel est le rapport de ce film on dit souvent que c'est un film en référence aussi au 11 septembre, à cette menace terroriste. D'ailleurs, il y a une réplique de la fille de Tom Cruise dans le film qui dit que ce sont des terroristes.
Tout à fait. Oui, il y a une référence qui est assez claire, c'est qu'au début on voit d'ailleurs une scène qui reste quand même pour moi une des plus dures jamais filmées. On voit clairement des êtres humains se faire littéralement pulvériser en cendres, pas par les rayons laser des tripodes. Et ces scènes, il y a un caméscope qui est tenu par un des figurants qui tombe par terre, et là on passe dans le plan subjectif du caméscope et là on les voit tous se faire décimer. Donc il y a déjà cette idée finalement de l'acte terroriste qui devient presque un acte de propagande quelque part qui est répété à l'infini par les caméras, ce qu'on va retrouver après dans Discovery Day.
Oui, Discovery Day qui va avec cette fameuse scène finale où c'est la multiplicité des écrans. Donc le film était sorti donc en 2005. Et là, on passe vraiment dans justement la voix off de Morgan Freeman. L'explique au départ, l'extraterrestre n'est plus un ami.
Oui, mais alors, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un film sur l'alien au sens Spielbergien, dans la mesure où, en fait, finalement, c'est un ennemi intérieur. D'ailleurs, il sort de Terre.
Oui.
D'ailleurs, il est atteint par une sorte de Deus Ex Machina, qui est une bactérie humaine qui, finalement, le décime à la fin du jour au lendemain. En fait, encore une fois, je pense que c'est pas tant un film sur l'alien, sur une opération céleste, qu'un film vraiment sur le mal de capable humain. Et je dirais sur la façon dont le collectif, en fait, finalement devient un mécanisme autophage dans l'histoire humaine. Il y a vraiment pour moi cette idée que dans un monde comme l'Amérique post 11 septembre, qui est fermé sur lui-même, qui est incapable finalement de retrouver du lien, du coup en fait chaque cellule familiale devient presque autophage. Et d'ailleurs j'en veux pour preuve, il y a une scène qui m'a toujours surpris dans ce film, c'est au début. Je pensais que c'était une erreur vraiment de scénario grossière. En fait, quand les Russes sont décimés par les extraterrestres, il y a un garagiste qui vient voir Tom Cruise, comme s'il se passait rien, et qui lui dit « Ah, au fait, je te réparais ta voiture pendant que les lasers
tournent. »
Je me dis, mais comment est-ce qu'il a pu laisser échapper ça? Je veux dire, le garagiste devrait être en train de courir, etc. Et en fait, je me suis dit que ça se trouve, c'était un moyen un peu humoristique, un peu décalé, de montrer à quel point, dans l'Amérique post 11 septembre, finalement, la société est tellement silotée, tellement dans sa petite bulle d'information, qu'en fait, elle est incapable de redevenir finalement universaliste et finalement collective pour le bien commun, quelque part. Il y a ce côté. Moi, j'ai vu ça comme ça. Après, c'est sûr, c'est une erreur grossière, mais de sa part, je ne pense pas.
Oui, il y a aussi une scène très intéressante, c'est qu'au début, l'orage magnétique, tout le monde le regarde sous l'aspect de la curiosité, du spectacle, c'est de l'entertainment. On va voir cet orage, il est magnifique. On voit le côté très superficiel de Tom Cruise qui emmène ses enfants et qui leur dit « Regardez, c'est magnifique, allez, on y va, on prend la voiture. » Et là, d'un coup, on va basculer. Et d'ailleurs, cette scène-là aussi, on emmène toute la famille, on la retrouve aussi dans Rencontre du Troisième Type, quand Rodney arrive, veut emmener toute sa famille à 3h du matin, aller voir les soucoupes volantes.
Tout à fait.
Alors, il nous reste deux minutes. Parlons de peut-être de Ready Player One.
On peut en parler.
On parle un petit peu. Alors, ce film donc date de 2018, on est en 2045, on va essayer d'en parler très rapidement, mais en gros, le monde est chaotique. Un jeu a été créé par Donovan Hallyday, et ce jeu permet d'accéder à ce qu'on appelle l'Oasis, qui est une espèce de plateforme de jeu, où c'est une sorte de réalité virtuelle, et il y a des clés à saisir, ces clés permettent de devenir un peu le gardien de cette oasis, d'avoir des actions de manière très prosaïque, et donc il y a toute une quête là-dedans. On sort un peu du côté extraterrestre, là c'est plus j'ai revu ce film, on est vraiment dans une réflexion mélancolique sur le cinéma, parce que c'est ultra référentiel, comme Minority Report d'ailleurs.
Oui, en fait, pour moi, c'est un film qui est. Alors, pour moi, c'est un film bac à sable, déjà. C'est un film bac à sable dans lequel Spielberg s'est vraiment fait plaisir, et dans lequel il s'est amusé à accumuler toutes les références de sa vie de cinéaste, mais aussi de genre de jeux vidéo, parce qu'apparemment, il aime beaucoup ça. Et donc, pour montrer qu'en fait, à 75 ans, il restait finalement l'entertainer ultime, et qu'il restait capable finalement de parler de son art de façon ludique, sans forcément, encore une fois, en sortant un peu de la misanthropie qu'il avait développée dans le film précédent. Et pour moi, c'est un vrai film ludique. C'est un vrai film de grand enfant, et qui a toujours des prouesses techniques, mais je suis un peu moins fan parce que je suis peut-être moins jeu vidéo que.
Bon, en tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin. Alors, on a passé un petit peu rapidement à la fin, mais que des grands films dont nous avons parlé: Rencontre du Troisième Type, E.T., AI, Minority Report, allez les voir, La Guerre des Mondes. Allez voir ces films-là, achetez les Blu-ray. Et puis surtout, allez voir Disclosure Day. Merci beaucoup, Marc Aubrigon.
Merci, Philippe Boiry. Merci infiniment.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Cinéma, dirigé par Philippe-Henri Rambaud. Émission préenregistrée le 16 juillet 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 23 juillet, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.